Bonjour à tous. Bienvenue sur Séoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Amélie.
Bonjour.
Comment ça va?
Plutôt bien, aussi bien que ça puisse aller.
Super. J'ai découvert ton profil sur le groupe Facebook des francophones en Corée, sur lequel tu es très active. Tu as l'air aussi d'être en Corée depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut commencer par justement une rapide présentation?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, je suis arrivée en Corée à 24 ans, donc le calcul est vite fait, ça fait 10 ans.
D'accord.
Je suis mariée, mon mari est coréen, j'ai une petite fille de 4 ans et là j'attends une autre petite fille normalement, hein, si ça ne change pas de sexe entre temps, mais voilà, il y a le deuxième bébé en route.
Ah, bah, félicitations alors.
Merci.
C'est prévu pour quand?
Normalement début juin, on verra bien si ça attend jusque-là. La première est née un petit peu plus tôt, donc on verra bien.
D'accord, félicitations. La première était née en Corée, donc visiblement.
Exactement, oui. Et là, ce sera un bébé Corona aussi, finalement, un bébé Covid. Parce qu'elle va naître dans les restrictions, elle aussi. Hein. Je ne sais même pas si j'aurai le papa avec moi à ce moment-là.
Eh oui, effectivement, oui, d'accord. OK. Bon, bah, écoute, très bonne nouvelle en tout cas. Donc, est-ce que pour commencer, on peut parler un peu de ce que tu fais en Corée? Donc, si je crois savoir que tu travailles pour KBS et puis donc le groupe Facebook.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé à travailler à la KBS et KBS World Radio au service français. Donc, c'est une radio internationale créée par KBS qui a, oh là là, 60, fou, qui est vieille, une soixantaine d'années. Donc, elle a émis sur les ondes pour la première fois après-guerre, tout de suite après la guerre. De Corée, hein, évidemment. Et donc, je suis au service français depuis 2016. Et j'ai commencé par présenter une émission d'interview qui s'appelle Séoulscope, où je faisais découvrir des profils, des portraits de personnes francophones, donc pas forcément françaises, pas forcément coréennes, mais qui avaient un rapport avec la Corée. Donc, ça pouvait être pendant des festivals ou tout simplement des artistes, des écrivains, enfin bref, plein de choses comme ça.
D'accord, donc tu animes en français hein, sur cette radio.
Exactement, c'est une radio qui a 11 services, donc 11 langues de diffusion. Il y a le français, l'anglais, le coréen évidemment, le japonais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, le japonais, je ne sais pas si je l'ai dit, le japonais, le vietnamien aussi et l'indonésien. Et il y a le service français.
D'accord.
Qui existe depuis une soixantaine d'années.
Ah, le service français existe depuis une soixantaine d'années aussi.
Oh ouais, il y a eu le service d'abord anglais. Ensuite, il y a le service, il me semble, allemand et le service français arrivé après.
D'accord.
C'est l'un des de la radio.
Est-ce que tu sais qui est ton audience? Est-ce que ce sont surtout des Français basés ici, des Français basés dans le monde entier, la France en particulier, évidemment?
Alors, ce sont surtout des auditeurs d'Afrique du Nord, mais nos auditeurs les plus actifs sont les auditeurs français. C'est eux qui nous écrivent des lettres, qui nous envoient des rapports d'écoute régulièrement. Les auditeurs africains sont plus dans la passivité. Ils nous écoutent sans forcément nous écrire ou nous montrer leur présence parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens sur Internet ou même par courrier de nous montrer leur présence, tout simplement.
C'est intéressant, ça. Pourquoi Afrique du Nord, à ton avis?
Les radios, en fait, on diffuse sur les radios ondes courtes. Donc, c'est la radio AM et pas FM. Ce qui est beaucoup plus facile d'accès dans ce genre de pays où déjà l'accès à l'électricité n'est pas partout à égalité. En France, on a surtout un public onde courte, on va être honnête, d'un âge un petit peu plus avancé. Ce sont des passionnés, des radios amateurs qui font aussi partie de clubs de radios amateurs et qui s'amusent à écouter comme ça les radios internationales sur les ondes courtes. Ils découvrent les news de l'étranger en français par des francophones installés dans ces pays directement, dont la Corée.
Et pourquoi ce choix des ondes courtes plutôt que de la FM?
Je pense que c'est le choix de toutes les radios internationales pour avoir un public sur le reste de la planète, tout simplement, parce que diffuser en FM, les FM, nous en Corée, ça s'écoute surtout à la radio. Donc, quand on va au travail, les gens n'écoutent pas la radio chez eux. Et en France, je pense que c'est tout l'inverse. On a l'habitude de beaucoup écouter la radio à la maison. Et les postes ondes courtes qu'on a en France, les gens écoutent ça chez eux. Et en Afrique également, ils écoutent la radio directement chez eux. C'est pas une radio, comment dire. Là, c'est plus une radio de passionnés, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, ils recherchent la qualité, ils recherchent à découvrir, c'est-à-dire ils vont tourner le bouton. C'est un petit peu comme les passionnés de CB, ceux qui veulent communiquer en CB, comme les camionneurs par exemple. Ils vont tourner le bouton jusqu'à trouver une fréquence qui fonctionne pour communiquer. La radio onde courte, c'est pareil. Ils vont tourner le bouton jusqu'à tomber sur une fréquence et avoir une radio internationale. Donc parfois, ce n'est pas forcément en français, hein, ça va être des radios dans une langue étrangère. Et parfois, ils ont la chance de tomber sur du français, sur une radio qui émet depuis un pays à l'étranger. Et c'est eux qui vont découvrir quel est ce pays qui émet. Et souvent, c'est comme ça qu'on a des nouveaux auditeurs, qu'il y a aujourd'hui encore en 2021. Et c'est des jeunes en plus, hein, souvent, qui nous arrivent.
Oui.
On a des auditeurs de francophones d'Italie. On a eu cette semaine un nouvel auditeur de Lituanie qui a dit qu'il nous a trouvés sur les ondes par hasard et qui va continuer à nous écouter, par exemple.
D'accord. Donc, à t'écouter, ce sont plus des gens qui sont passionnés par la radio que passionnés par la Corée, en fait.
Ouais, et en fait, le fait qu'ils soient passionnés par la radio, ils vont trouver un intérêt vers le pays qui émet. C'est-à-dire que tous nos auditeurs, nous, quand ils sont arrivés sur notre radio, ne connaissaient absolument pas la Corée. Ça a été un pur hasard. Et ils ont commencé à aimer la Corée grâce à toutes ces émissions qu'on transmet. On parle de culture, on parle d'histoire, de littérature, des news au quotidien, de cinéma aussi. Et c'est ce qui plaît aux gens, en fait, de découvrir un pays comme ça par les ondes, par la voix des animateurs. Et du coup, aujourd'hui, nos auditeurs nous disent facilement hein, qu'on est un petit peu leur Corée sans voyager, quoi. Ils n'ont pas besoin de voyager jusque-là puisqu'on leur dit tout, finalement.
D'accord, oui, c'est intéressant. Et les francophones basés en Corée, est-ce qu'ils vous écoutent aussi?
Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de retours de ces francophones-là. Je pense qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Donc
Oui.
moi, de temps en temps, sur le groupe Facebook, on en parlait, je partage de temps en temps des news de la radio sur laquelle je travaille, parce que ce n'est pas pour faire de la pub pour la radio pour laquelle je travaille. Ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est plus pour montrer qu'il y a des news sur la Corée fiables et en français, des news officielles, parce que KBS, il faut savoir que c'est une radio, une chaîne télé à la base, la première chaîne de Corée qui appartient à l'État. Donc on évite la fake news. On est sur de la nouvelle officielle. Donc, j'essaye de temps en temps de partager des informations directement publiées ou diffusées par notre radio en français pour un public francophone, donc sur le groupe. Et je pense que ça peut montrer à ces Français, en francophone du moins, en Corée, qu'il existe un média qui parle de la Corée, de son actualité au jour le jour. Directement dans une langue qu'ils comprennent, donc en l'occurrence le français, et je suis sûre que beaucoup de monde ne le sait pas. Parce que c'est pas quelque chose, on va arriver dans un pays, on va pas se dire, bon, est-ce qu'il y a un média de ce pays qui diffuse dans ma langue? On se le dit pas forcément, on se le demande pas. Donc
Oui,
je pense que
tout à fait. Oui, tout à
voilà.
fait. Moi, c'est effectivement, j'ai découvert KBS sur le groupe. On pense à TV5 Monde, en fait, quand on est à l'étranger. On pense donc aux chaînes françaises, mais
Exactement.
centrées sur l'international, mais effectivement pas à KBS. C'est intéressant.
Oui,
Et
exactement, c'est pour ça qu'il y a KBS, donc il faut que tout le monde le sache.
d'accord. Bah, écoute, c'est noté. Donc, c'est une chaîne du service public. Est-ce que ça fait de toi une fonctionnaire coréenne?
Absolument pas, je suis freelance et je
D'accord.
suis une simple pigiste pour la radio.
Ça occupe à temps plein ou ça occupe quelques heures par
Alors,
semaine?
ça dépend de l'émission qu'on présente. Moi, je présente l'émission hebdomadaire principale, on va dire, c'est celle qui est directement en lien avec nos auditeurs du monde entier. Donc moi, ça me prend énormément de temps sur ma semaine parce que il faut écrire un script hein, pour présenter une émission. Je présente pas seule, je suis avec ma productrice.
Oui.
Donc je dois écrire un script d'une dizaine de pages. Je dois trouver des sujets, je dois reprendre des courriers qu'on nous envoie, les lire à l'antenne, etc. Je dois répondre aux emails aussi. Je suis directement moi aussi en lien avec ces auditeurs. Donc tous les auditeurs connaissent forcément mon prénom, ils savent qui je suis. parce qu'ils m'entendent tous les samedis sur notre émission de 50 minutes. Donc,
D'accord,
c'est.
tu as ton fan club.
Je ne sais pas si c'est un fan club. En tout cas, on s'aime beaucoup. Moi aussi, mes auditeurs sont mes. Sont, c'est mon fan club. Enfin, non, comment je dois dire ça?
Tu es fan
Ce sont
de tes
mes
auditeurs
idoles.
aussi.
Voilà, c'est
Ce sont tes
ça.
idoles. D'accord.
J'ai aussi mes chouchous. Hein. Je pense que tous les animateurs ont leurs chouchous. Mais moi, vu que je suis directement en lien avec eux, à force d'échanger par email et tout ça, on crée des liens.
Donc des gens qui sont essentiellement basés à l'étranger, comme on disait tout à l'heure.
Exactement, oui. J'en
D'accord.
ai pas encore hein, qui m'écrivent. Ou...
D'accord. Et j'ai vu passer un message, donc bon, je ne sais pas si on peut en parler, mais sinon on coupera ça au montage, ce n'est pas grave. Mais j'ai vu passer un message sur le forum où il me semble que tu parlais de l'absence de contrat. Et je ne sais pas si ça concerne cette expérience-là en particulier. Tu disais qu'en tant que freelance, on n'a pas forcément de contrat ici en Corée.
Oui, on n'a pas de contrat, mais en fait, je pense que la taxation en Corée est un peu différente, hein, parce que, par exemple, moi, avec KBS, je n'ai pas de contrat, mais eux, quand ils me payent, ils déclarent directement aux impôts mes revenus, en fait. Ce qui fait que quand je dois faire ma déclaration d'impôt au mois de mai-juin, j'ai directement tous les chiffres qui apparaissent sur ma session Internet pour les taxes. Donc, ce qui fait que l'État est au courant que je travaille pour KBS.
D'accord, mais par
Et
exemple,
l'entreprise gère tout ça.
par exemple, ton salaire, tu n'as aucun document qui
Non, j'ai
récapitule
rien.
ton salaire.
Non,
D'accord.
rien. J'ai juste mes relevés de compte. Par contre, je peux demander si je veux. Hein. Je peux demander à avoir une attestation de mon salaire pour tel mois ou tel mois. Mais en travaillant en Corée, en 10 ans, j'ai fait plusieurs emplois, enfin j'ai eu plusieurs postes, on pourra en sûrement reparler. Jamais, pas une seule fois, je n'ai eu une fiche de paye.
D'accord. Mais
Jamais.
ma question, c'est est-ce que c'est du laxisme de leur part ou est-ce que c'est légal et que c'est un petit peu la façon dont ça
Non,
se
c'est
gère?
légal. Mon mari qui est photographe, qui travaille dans un studio, etc. Pareil, il n'a pas de fiche de paye. S'il veut une fiche de paye, il la demande à sa patronne et elle lui imprime, quoi.
D'accord. Je
Je pense
pensais
que
même
c'est.
avant la fiche de paye, parce que par exemple, tu as négocié, j'imagine, ils t'ont fait une proposition. Tout ça a été fait par email, ça a
Tout était
été fait par
oral. Tout a été oral.
oral. D'accord.
Ouais. Dans le cas du freelance, hein, pour mon mari, il a un contrat quand même. Il a signé un contrat de travail. Il est employé. Moi, je ne suis pas employée.
Oui, les employés ont un contrat de travail, mais sur les freelances, on peut travailler complètement à l'oral et c'est tout à fait légal, tout à fait accepté.
Exactement. Et après, il y a les freelances qui ont leur entreprise. Donc, moi, j'ai créé mon entreprise là récemment parce que je fais aussi une activité de traduction qui demande à ce que j'ai mon numéro professionnel. Mais sinon, à part ça, les freelances en Corée ont beaucoup de liberté et on n'est pas imposé, on n'est pratiquement pas imposé. Et on a toute la liberté qu'on veut à partir du moment où on ne gagne pas un certain montant. Donc, il me
D'accord.
semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est dans les 2 ou 3 millions par mois. À ce niveau-là, on fait pratiquement tout ce qu'on veut. Mais si on gagne beaucoup plus que ça, je pense que l'État pourrait venir nous dire, il faudrait peut-être créer votre entreprise. Mais je ne sais pas
D'accord.
trop. J'en suis pas
D'accord.
là.
En revanche, tu n'as aucun bénéfice, type pas de vacances, pas de sécurité sociale,
Exactement. Je
etc. Hein?
ne cotise à rien. Donc, si je veux cotiser, il faut que je voie ça avec des assurances privées. Et mes vacances, bah, vu que je suis freelance, c'est moi qui les gère. Mais avec KBS, en fait, KBS, c'est un peu particulier. Parce que c'est une mission extra-régulière. J'ai une émission hebdomadaire qu'on ne peut pas annuler si je veux partir en vacances, par exemple. Donc, j'ai une
D'accord.
obligation de rendu de résultats, d'écrire mes scripts et présenter mes émissions. Ce qui fait que bah, je n'ai pas de vacances finalement.
Parce que tu ne peux
Mais
pas
c'est une
présenter
fois
à
par.
distance, hein, forcément. Ça se passe toujours
Voilà,
dans
donc
les
c'est une fois.
locaux.
Voilà, et c'est une fois par semaine. Mais il m'arrive quand même de partir en France. Mais même quand je vais en France, je dois écrire mon script. Donc, je dois m'enfermer plusieurs jours par semaine dans une chambre, dans un bureau pour écrire mon script. Et ce sera un collègue à moi qui va me remplacer sur deux ou trois émissions.
D'accord, ah oui, effectivement.
Pour la
Et...
présentation seulement, mais l'écriture, ça reste ma responsabilité.
D'accord. Donc justement, vous êtes beaucoup de Français chez KBS?
Oui, on est. Alors, l'équipe en elle-même, on est 24, je crois. Et au niveau des Français, on est. Je pense qu'on est la moitié.
Une douzaine de Français, donc.
Ouais, on est la moitié. Et je suis la seule fille française. C'est que
Ah,
des garçons. Ah, ils sont partout,
d'accord.
ces garçons, hein.
Et surtout, il n'y a pas d'obligation de parité, alors, visiblement.
Ah non, aucune. Mais c'est marrant hein, parce que quand même les deux directrices du service sont des femmes. Il y a quand même beaucoup plus de femmes dans tout le service. Mais
D'accord, mais dans
les
les présentateurs en
présentants sont des
français,
hommes.
sont des hommes,
Oui.
d'accord.
Voilà, je suis la seule fille.
Comment est-ce qu'on trouve un travail comme ça? Comment est-ce qu'on entre chez KBS?
Ben moi, je veux dire que j'ai eu un peu de chance. Hein. J'ai été interviewée en 2016. J'ai été interviewée en février 2016, donc il y a 5 ans maintenant, parce que je tenais un blog et une chaîne YouTube de ma vie en Corée, mes démarches administratives et tout ça, que je ne tiens plus aujourd'hui. Hein. J'ai arrêté. Mais
D'accord.
du coup, j'avais eu cette interview et puis c'était en février. Et après la diffusion, j'ai l'une des deux productrices qui m'a recontactée en disant que j'avais une voix radiophonique et qu'ils aimeraient bien travailler avec moi. Donc, si ça m'intéressait de les recontacter, donc j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. C'est là qu'on m'a dit, bah, dès qu'une place se libère, on vous recontacte. Ah bon, bah ok. Et juin suivant, on m'a recontactée en disant, c'est bon, une place est là. Et c'est là que j'ai commencé à travailler.
D'accord, donc c'est ton travail online en fait, tes vidéos, ton blog qui t'ont fait repérer en
Voilà,
fait.
j'ai été repérée comme ça.
Ouais, très bien, intéressant. Donc à côté de ça, tu t'occupes aussi du groupe Facebook, hein, les francophones en Corée, qui atteint bientôt les 19 000 membres, c'est
Oui,
ça?
on y est bientôt là, hein.
Eh bien, félicitations pour ça aussi, parce que ça en fait le plus grand groupe Facebook francophone, c'est ça?
Ouais, c'est ça, je pense qu'on peut le dire, hein. C'est le plus gros groupe dédié aux francophones en Corée, donc. Mais il est vieux, hein, il est comme moi, il a une dizaine d'années.
Il a une dizaine d'années. Ce qui est impressionnant, c'est que la Corée reste quand même un petit pays d'expatriés. J'ai vu les chiffres récemment, il y a à peu près 3 000 Français inscrits au consulat.
Oui, chaque année, on reste dans les 3 000, hein, en général.
Ouais. Donc ça veut dire beaucoup de ces membres ne sont pas en Corée, n'y vivent pas, n'y ont peut-être même jamais vécu.
Exactement. Il y en a beaucoup aussi qui ont vécu, mais qui sont rentrés en France ou sont partis dans un autre pays, mais qui restent. Et d'ailleurs, moi, je suis pour ces présences de personnes qui ont vécu ici, puisque ça enrichit finalement les expériences qui peuvent être partagées. Parce que moi, par exemple, mon expérience d'il y a 10 ans avec celle de maintenant est complètement différente. La Corée a beaucoup changé depuis. Les Coréens, ont changé aussi leur comportement envers les étrangers. Donc, c'est plein d'expériences différentes comme ça qui peuvent être partagées. Qu'on ait vécu en Corée, qu'on vive maintenant en Corée ou qu'on ait l'intention d'aller vivre en Corée, j'ai vraiment l'ambition de garder ce groupe plutôt ouvert, mais sans exagération. C'est pour ça qu'il y a des questions à l'entrée que j'ai ajoutées il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant, qui n'existaient pas avant. C'est pour ça qu'en fait, je pense que ce groupe a grossi aussi vite. C'est qu'avant, c'était une entrée libre. Maintenant, c'est plutôt une entrée sélective. Que je fais moi, du coup, c'est complètement subjectif, mais je vérifie les informations des membres qui veulent entrer parce qu'on a eu des cas de harcèlement sur le groupe et j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc,
Oui, tout à
je
fait.
fais
C'est
attention.
la modération, de toute façon, c'est capital, hein, sur Internet en général et sur les groupes en particulier, puisqu'on donne la parole à tout le monde. Il y a effectivement un premier filtre qui se fait au niveau des membres. Ensuite, il faut modérer les messages. Mais justement, ça fait avec 19 000 intervenants potentiels, ça doit faire énormément de modération. Est-ce que tu as compté un petit peu ce que ça représente comme travail par semaine ou par mois?
Bah en fait, non, j'ai pas compté, mais j'ai toujours été très présente sur ce groupe depuis mon arrivée en Corée. C'est-à-dire que je suis arrivée en mars 2011 et j'ai atterri sur ce groupe en juin, je crois, mai ou juin 2011, donc tout de suite après mon arrivée. Et j'ai tout de suite été très active parce que j'ai toujours aimé partager des informations. C'est pour ça que j'avais créé mon blog sur mes démarches administratives avant de partir en Corée. Parce que pour moi, le partage, c'est hyper important. Il faut que les informations que j'ai pu trouver moi, je les partage ensuite. Donc, d'être sur ce groupe, c'était super important pour moi. Et
Oui, parce que
c'est un groupe que.
pardon, tu n'as pas, tu n'es pas une fondatrice, hein, du groupe. C'est pas
Pas
toi
du tout,
qui a
pas
fondé le
du
groupe.
tout. C'est pour ça. Moi, je suis arrivée sur ce groupe 2 mois après mon arrivée en Corée, juste pour partager des infos que moi, j'avais. Il y avait des questions, donc si j'avais la réponse, je répondais. Et c'est après toutes ces années d'activité intense, parce que j'étais toujours à répondre, finalement, on voyait, je pense, mon nom partout dans les commentaires. Je donnais mon avis un peu sur tout, tout en restant respectueuse, évidemment. Mais je pense que c'est à force de voir mon nom, les admins quelques années plus tard, donc c'était il y a 3 ou 4 ans, 4 ans peut-être, ils m'ont contacté en message privé en demandant si déjà je voulais être modératrice parce que j'avais une bonne activité sur le groupe, j'étais la plus active en fait. Parce qu'en fait, sur le groupe, on peut voir le classement des membres qui est le
Oui.
plus actif. Et du coup, ils m'avaient posé la question. Ils ont dit, ouais, tu as toujours des interventions pertinentes. Est-ce que tu voudrais être modo? J'ai dit, OK. Et finalement, de modo, je suis passée à admin super vite. Mais comme on peut voir sur le groupe, en fait, on est quatre admins normalement. Avant, on était cinq. Et donc, il y avait la
Oui.
fondatrice du groupe. Mais la fondatrice a décidé de se séparer un petit peu des réseaux sociaux, ce que je comprends. Du coup, elle a arrêté le groupe, mais nous, on l'a maintenu. Et je pense que mes collègues administrateurs sont très occupés dans leur vie professionnelle, donc ils ne s'occupent plus du groupe. Et je pense qu'ils se sentent aussi eux-mêmes soulagés de savoir que moi, je suis toujours aussi active pour en prendre soin, je pense.
D'accord. Et qu'est-ce
Voilà.
que ça t'apporte? Parce que c'est quand même beaucoup d'heures, donc effectivement, c'est le partage. Est-ce que ça t'apporte des choses en particulier?
La satisfaction personnelle, je pense que c'est, je continue dans cette même lignée que j'ai depuis 2011 sur le groupe à partager des informations, à partager ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu voir au travers de mon entourage, de mes amis. Donc, c'est continuer. Pour moi, ce n'est pas un travail vraiment. À chaque fois, je vois des messages, oh là là, Mélie, ça doit être tellement dur, 19 000 membres, tu es toute seule à gérer. Ben non, en fait, puisque moi, au quotidien, c'est devenu une habitude, ce groupe. Dès que je vais sur Facebook, je ne vais même pas sur mon profil personnel. Je vais directement sur le groupe voir les nouveaux messages, ce qui m'a été signalé. Les membres qui veulent intégrer le groupe et tout ça, c'est devenu super naturel dans ma routine de la journée d'aller sur ce groupe plusieurs fois par jour. La nuit, je ne peux pas, donc le matin, je me réveille, il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans la journée, je ne le vois pas du tout comme une charge ou quoi que ce soit. Hein. Même quand je me suis mise à faire un petit tutoriel que j'ai juste repris sur les autres groupes Facebook que j'administre. Et du coup, je vais en faire d'autres. Je vais refaire d'autres tutoriels pour expliquer comment faire certaines démarches à des francophones qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas du tout le système coréen. Donc non, pour moi, ça reste, c'est comme une passion en fait, la passion de partager, d'aider, puis de, ouais, je sais pas, d'être utile en
D'accord.
fait.
Ouais, bah très bien. Et puis là aussi, il n'y a pas de vacances, hein, par contre.
Non, non, mais Facebook, pour moi, je comprends pas qu'on puisse dire qu'après que Facebook peut être un travail. Pour moi, ça n'est pas un. C'est du loisir. Voilà, du loisir utile.
D'accord. Bah c'est
C'est ce qu'il
impressionnant
faut
parce que
faire.
quand même, 19 000 membres, ça fait quand même un groupe conséquent. Souvent, les groupes et les pages ont quand même une vocation commerciale, hein, au final. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'on imagine que c'est beaucoup de travail et que bon, parfois, on peut être découragé par des messages un petit peu agressifs ou des commentaires un peu agressifs, alors que soit on est en train de développer tout ça. Mais d'accord, c'est intéressant. Je voulais revenir effectivement sur tes 10 ans en Corée, puisque la Corée a beaucoup changé, hein, finalement. Enfin, tu m'arrêteras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on connaissait très peu la Corée, hein, c'était encore pas un pays. Très très considéré par les Français et les Européens. À l'inverse, les Coréens ne s'intéressaient pas non plus trop à l'Europe, je crois, ils s'intéressaient plus aux États-Unis. Et puis, petit à petit, la K-pop, la cuisine coréenne, tout ça a commencé à envahir. Donc, toi, tu as vécu un peu ces 10 dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler?
Moi déjà, quand j'ai voulu faire mon départ pour la Corée sur Internet en français, je n'avais absolument aucune information. Quand j'allais sur Google,
Oui.
il fallait absolument parler anglais pour avoir des bribes d'informations, comment faire un visa, blablabla. Ensuite, pour l'école, pour m'inscrire en centre de langue coréenne, pareil, c'était qu'en anglais et encore un anglais un peu bancal. Mais oui, il y a 10 ans, alors j'imagine pas, hein, ceux qui sont là depuis 20 ans, ils ne devaient rien avoir du tout. Mais il y a 10 ans, en français, on n'avait pratiquement rien. Aujourd'hui, en 2021, 2020-2021, on a tout ce qu'on veut, absolument tout en français. Et je pense que les ambassades aussi ont beaucoup joué sur cette vague coréenne qui a déferlé sur l'Europe, sur l'Occident en général. Et la francophonie a sa place aussi en Corée, puisque on fête la francophonie tous les ans. Bon, là, avec le corona, ça a été annulé, mais on fête la francophonie en Corée tous les ans. Et les Coréens sont très actifs là-dedans.
D'accord.
C'est
Mais
très
justement,
intéressant.
cette vague, est-ce que tu saurais la dater? Est-ce que c'est Psy et Gangnam Style? Ou est-ce que toi, tu as puisque tu étais là justement et que tu as dû voir le changement, le avant-après, Est-ce que tu aurais une période à peu près hein, sur laquelle cette vague a vraiment démarré et a changé le visage de la Corée?
Je pense que c'est à peu près, ouais, ça a commencé très timidement quand même il y a 10 ans. Parce que je me rappelle que quand je faisais mes petites sorties avec mes amis coréens, avec l'association Racines Coréennes et tout ça, en karaoké, il y avait déjà quand même pas mal de K-pop qui étaient chantés. Donc c'est que ça avait quand même déjà bien démarré. Il y a l'ancienne génération, la première génération de K-pop aussi, qui était peu connue en France quand même. C'est la deuxième génération avec SHINee et tout ça, qui s'est vraiment fait connaître. En France et je pense aussi dans tout l'Occident, hein, aux États-Unis, Mexique et tout ça. Mais je pense que oui, ça a commencé timidement il y a 10 ans pour vraiment exploser avec Gangnam Style, alors que finalement, il y avait déjà une certaine vague. C'était une vague assez douce. Mais Psy, ça a été une vague qui a déferlé, mais qui s'est écrasée comme ça sur l'Europe et les États-Unis. Parce que ça a battu des records. Donc finalement, ça a vraiment ouvert des portes à la Corée. La Corée s'est immiscée dans cette opportunité. Elle en a profité. Les centres culturels ont redoublé d'activité. Et je pense que ça a beaucoup joué parce que les centres culturels ont un rôle énorme aussi sur la propagation, on va dire, de la culture coréenne. Parce que la Hallyu, ce n'est pas que la K-pop. La Hallyu, c'est la culture, c'est les traditions. C'est plein de choses, hein.
Oui, tout à fait. D'accord. Donc, voilà, effectivement, ça a démarré un peu là-dessus, ça a été un peu l'étincelle, et ensuite tout le monde s'est un petit peu.
Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu une vague touristique très centrée sur la K-pop, alors que moi, je ne suis pas de cette vague touristique-là, je suis plus dans la vague littéraire ou à cause du coréen. Moi, c'est surtout la langue qui m'a attirée ici, donc. Je connaissais absolument rien à la K-pop. Aujourd'hui, c'est pareil, je suis comme une mamie. Je ne connais rien. Je connais des noms de groupes, mais après, c'est tout ce que je sais. Il y a vraiment une génération touristique très K-pop, mais heureusement, c'est une génération évolutive, puisqu'on remarque aujourd'hui qu'il y a des gens qui le disent clairement. Moi, je suis arrivée ici grâce à la K-pop, mais après, j'ai découvert la culture, la littérature, les traditions, c'était merveilleux. Voilà, les gens ne s'arrêtent pas qu'à la K-pop. La K-pop,
Oui.
c'est le départ. Et après, en fait, c'est le tronc. Et ensuite, il y a toutes ces branches de découvertes. Et c'est comme ça qu'après, toute une passion sur la Corée évolue.
D'accord, c'est une porte d'entrée sur la Corée. Ensuite, les gens découvrent d'autres choses et certains restent sur la K-pop, d'autres la lâchent. D'accord, très bien.
Ça commence toujours par quelque chose. Après tout, moi, ça a été une
Oui.
chanson. Et eux, ça a été carrément un style musical. Donc. Voilà, après la finalité reste la même, on aime la Corée.
Voilà, d'accord. Écoute, si tu veux bien, on va remonter dans le temps un petit peu. On va repartir à tes origines. Tu es de quelle région?
Alors, oh là là, je suis née. Alors, j'ai pas de région vraiment particulière, je vais t'expliquer. Je suis née à Paris, j'ai
Oui.
grandi en Picardie et je suis revenue sur Paris à 14 ans avec mon magnifique accent picard. C'était génial, quoi, j'étais ma rentrée parisienne avec ça. Et ensuite, je suis partie en Corée à 24 ans. Je suis partie en Corée à 24 ans. Entre-temps, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ma famille a déménagé en Champagne-Ardenne, à la frontière avec la Bourgogne. Donc, quand je rentre en France, je ne vais pas en Picardie, je ne vais pas à Paris, je vais en Champagne-Ardenne. Voilà.
D'accord, et tu as
Donc, on
perdu
va dire
l'accent
que je
picard.
suis. Il paraît que ça revient de temps en temps, mais quand je vais en France, il paraît que j'ai un accent coréen. Donc, je ne sais pas. Je ne
Ah,
sais plus.
d'accord, ok. Mais justement, alors, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de Paris à la Corée, là? Il nous manque une étape.
C'est cette fameuse chanson que j'ai entendue un jour. J'étais avec un pote sur un forum, je ne sais même plus de quoi. Et il avait posté un clip d'une chanson, magnifique chanson. C'était Yeojaeinikka du groupe Kiss. C'est un très vieux groupe aussi. Et j'ai entendu du coréen pour la première fois grâce à ce vidéoclip. Et je ne sais pas, j'ai eu comme un coup de foudre, un déclic. C'était une langue, j'entendais que des sumnika, imnika, imnida. Mais qu'est-ce que c'est joli, c'est beau, c'est tellement doux. Et en me renseignant un peu, j'avais deviné un petit peu que c'était asiatique parce que les personnages du clip étaient asiatiques, mais la sonorité de la langue sonnait asiatique. Et en me renseignant sur Google, j'ai vu que c'était un petit appendice entre la Chine et le Japon. deux gros pays, et il y avait là, au milieu la Corée, la péninsule coréenne. Et je me suis un petit peu plus penchée là-dessus, et surtout, j'ai ressenti un besoin d'entendre la langue coréenne dans mon quotidien. Donc, je suis allée sur YouTube et je faisais tout tourner, des émissions télé, des musiques, tout ça, tout ça. Juste pour entendre du coréen, ça me faisait tellement de bien. Et à la fin, je me suis dit, ah, moi aussi, plutôt que l'écouter, j'ai envie de le parler. Donc, je me suis lancée dans l'apprentissage du coréen en autodidacte parce que je travaillais à l'époque
Donc,
et
tu as
j'avais
quel
pas fait.
âge là, à l'époque, tu as quel âge?
À l'époque, oh là là, je devais avoir 20, je devais avoir 20 ans, 21 ans.
D'accord, et tu travaillais déjà?
Ouais, j'étais secrétaire médicale, j'avais fait un certificat professionnel après mon bac de secrétaire médicale. Je travaillais en labo d'analyse, un job que j'ai adoré. Ça a été un crève-cœur pour moi de le quitter pour venir en Corée. Mais voilà, du coup, je travaillais. Le centre culturel n'avait plus de place pour l'apprentissage du coréen parce que c'est par classe. À l'époque, ils ne prenaient pas beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont bien doublé les effectifs vu le succès que ça a. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. Du coup, j'ai tout fait en autodidacte à la maison. J'ai acheté des bouquins, j'avais un logiciel et tout ça. Et puis, à fond, même quand je travaillais pendant mes pauses, j'étais sur mes bouquins à étudier le coréen comme ça. J'ai tenu ce rythme 1 an et demi. Entre-temps, j'ai quand même eu des baisses de morale en me disant, j'y arriverai jamais, je progresse pas, parce que j'avais rien pour me prouver que je pouvais progresser. J'avais pas d'examen pour me donner une note sur 20 ou un truc comme ça. Moi, je ne voyais pas mes progrès.
Oui,
Finalement,
et surtout, est-ce que tu pratiquais?
bah, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai cherché à avoir un entourage coréen. C'est pour ça que je me suis inscrite sur le site, le forum Racines coréennes à l'époque. Et je me suis fait beaucoup d'amis. Donc, ce n'était pas forcément des Coréens coréanophones. C'était beaucoup d'adoptés coréens qui sont devenus mes amis. On sortait très souvent. Et puis, parmi ces amis, je me suis fait d'autres amis coréens-coréanophones qui venaient de Corée, qui étaient en France pour leurs études. Et j'ai eu une colocataire coréenne comme ça, à Paris. Donc,
D'accord.
on a loué un appartement ensemble. Et du coup, j'ai pu voir petit à petit des progrès se faire parce qu'elle me parlait coréen, je comprenais, j'essayais de répondre et tout ça. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai un petit peu progressé dans mon coréen et j'ai décidé d'améliorer mon coréen pour de bon en venant en Corée directement sur place, en centre de langue. C'est pour ça que je me suis inscrite pour 6 mois à Sukmyeong Women's University, qui est dans le centre de Séoul, pour améliorer mon coréen pendant six
Alors,
mois.
donc tu travailles secrétaire médical, hein, tu as dit, tu apprends le coréen, et là tu démissionnes, tu quittes ton job et tu t'inscris à l'université. Comment ça se passe?
Ouais, c'est ça, j'ai démissionné parce que mon patron n'allait pas me dire, allez, ok, un congé de 6 mois et tu reviens
Oui.
quand c'est fini, sachant que moi-même, je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. Parce que je m'étais dit, je pars 6 mois, allez, hop. Mais finalement, voilà, 10 ans plus tard, j'ai oublié mon ticket retour. Hein.
Oui, donc on est en 2011, tu pars en Corée, tu connais personne là-bas, a priori?
non, je connais. En fait, entre-temps, sur Internet, je m'étais fait une correspondante. C'était sur un vieux site, il était tellement mal fait. Ce site, ça s'appelait languageexchange.com, je crois. Je ne sais même pas s'il existe encore. Et
Ok.
j'avais rencontré cette fameuse Coréenne qui pouvait m'aider pour ma grammaire, pendant que moi, je l'aidais pour son français. Et elle écrivait déjà si bien français. Moi, à côté, j'étais un petit peu nulle en coréen. Je me disais, ah là là, il y a vraiment une différence de niveau. Mais on est devenus amis. Ce qui fait que plus tard. Elle est venue en France une fois, je l'ai rencontrée avec ses parents, etc. Et puis plus tard, en allant en Corée, je suis restée en guest house pendant un mois. Et quand je suis venue pour m'installer pour 6 mois, hein, je suis restée d'abord en guest house pendant un mois. Et après, elle m'a dit, bah, écoute, dans mon appartement, il y a la chambre de ma sœur, parce qu'elle vivait avec sa sœur, il y a la chambre de ma sœur qui se marie, qui s'est libérée. Donc, si tu veux, on peut vivre ensemble. Du coup, voilà, j'ai vécu en colocation avec elle aussi pendant un an dans le quartier de Hewa, au nord de Séoul. Et c'était génial, elle parlait tellement bien français. Et j'ai fait beaucoup de progrès grâce à elle aussi, puisqu'on se parlait en français et en coréen. Elle me corrigeait, je pouvais lui poser des questions en direct. Mais comment tu dis ça? Et puis la grammaire pour ci, pour ça. Elle pouvait tout m'expliquer, vu qu'elle parlait parfaitement français. Donc ça a été une aide énorme pour moi. Et après, bon, j'ai déménagé. Mais du coup, moi, j'ai quand même continué mon apprentissage du coréen dans cet institut de langue. J'ai fait tous les niveaux jusqu'au niveau 6. Et voilà quoi.
Donc pendant combien de temps? Ça a pris combien de temps tout ça?
J'ai fait 1 an. Alors, je suis arrivée en Corée, on m'a fait un test. J'ai été directement niveau intermédiaire, donc niveau 3. Et après, j'ai fait le niveau donc 3, 4, 5. Ça m'a fait un an. Après, je suis rentrée en France pour faire un visa PVT. Ensuite, je suis repartie en Corée parce qu'on peut faire ce visa. On ne peut pas le faire en Corée, ce visa, il faut rentrer pour revenir.
Ouais.
Du coup, après, je suis revenue en Corée un an. J'ai fait des petits boulots et tout ça. Ensuite, mon visa se terminait, mais je ne voulais pas partir parce qu'à l'époque, j'avais déjà mon copain, futur mari. Donc, j'ai décidé de me réinscrire en cours de langue pour refaire mes deux derniers niveaux parce que je me suis dit, en un an, j'ai beaucoup oublié. Donc, j'ai refait niveau 5-6. Et après, je me suis inscrite en bachelor. Ce sera sûrement une prochaine question, j'imagine.
Ah oui, donc après le niveau 6, tu fais un bachelor, c'est ça?
Ouais.
D'accord.
Et
Non,
même
je pensais
avec
que
une
quand on était
licence.
au niveau 6, on avait le Graal des études de langage.
Ouais, j'ai eu un diplôme, hein. J'ai Jorop, comme on dit. J'ai été diplômée de l'Institut de langue avec le fameux chapeau plat là, à l'américaine et le compagnie.
Oui. Mais je veux dire, l'intérêt alors à ce moment-là de faire en plus un bachelor?
C'est parce que moi, à ce moment-là, je donnais aussi des tutorats de français et je me trouvais vachement bien dans ce type de job. J'ai toujours aimé la langue française, la grammaire, l'orthographe et tout ça. Du coup, donner des cours de français, ça m'a donné envie d'être professeur de français langue étrangère, donc prof FLE. Et je me suis dit, pour être prof FLE, il faut quand même que je fasse plus d'études qu'un bac et un certificat professionnel de secrétaire médical. Ça passera jamais sinon. Du
Oui,
coup,
en
je me
Corée,
suis
il
lancée
faut
en.
un. D'accord, en
Ah
Corée,
ouais, bah oui.
il faut un niveau minimal pour effectivement pour être. Il
Oui.
faut un niveau d'études minimal pour être enseignant qui est bac plus 2, c'est ça?
Bac plus 3, voire master quand même.
Ah oui, d'accord.
Oui. Surtout si on veut un visa. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, pour ça, il faut que j'ai au moins une licence. Donc là, en France, la licence est 3 ans, en Corée, c'est 4 ans. Je me suis dit, bon, j'ai un peu réfléchi quand même, c'est un petit peu chiant, moi j'en ai marre, à mon âge, étudier, blablabla. J'ai juste envie de travailler, gagner ma vie et tout. Mais je n'avais pas trop le choix. Donc, je me suis inscrite dans la même université que l'Institut de langue, à Soumyang Women University. Et je me suis inscrite en bachelor langue et culture française. Donc là, dit comme ça, oh là là, oh là, les Françaises dans un département de français. Si vous saviez, mon Dieu, si vous saviez. C'était horrible, 4 années horribles. C'est pour ça que je ne conseille à personne de venir étudier en Corée.
Pourquoi des étudiants, des enseignants, pardon, français ou coréens?
À coréen, les cours en coréen, les livres en coréen, les présentations devant la classe en coréen. C'est en fait le département, il prépare des étudiantes à passer leur DELF B2 ou B3, je ne sais plus. A2 ou B1. Enfin bref, je ne sais plus. Ce n'est pas un niveau très élevé en fait. C'est pour ça que le français utilisé pendant les cours est très basique et il y en a très peu. Il y a vraiment des
D'accord.
cours 100% en français présentés par une prof francophone qui est Ida Dossi, très connue en Corée. Et les autres cours sont par des professeurs coréens, francophones, mais ils font leurs cours en coréen.
D'accord. Et pourquoi c'était terrible alors?
Comment dire ça gentiment? Parce que j'apprécie beaucoup mon université, mais le centre de langue était quand même plus facile que ce que j'ai vécu dans le cursus diplômant.
D'accord.
Pour pas me faire trop mal voir non plus, parce que j'ai quand même reçu beaucoup d'aide de certains professeurs qui étaient beaucoup plus gentils que d'autres. On va mettre les mots sur ce qui est. Il y a de la discrimination. La discrimination, le fait que je sois une Française en département de français, certains professeurs avaient l'air de mal le vivre. Je ne sais pas s'ils avaient peur que je les juge ou quoi que ce soit, alors que je ne les ai jamais jugés. Au contraire, j'étais
Oui,
admirative.
ça les mettait peut-être mal à l'aise que tu étais presque
Oui.
meilleur qu'eux dans la discipline qu'ils enseignaient, peut-être,
Ouais.
non?
Ils avaient peut-être peur que je note des erreurs qu'ils pourraient faire en français et tout,
Voilà.
alors que pas du tout. Moi, ce n'était pas ça mon but. Au contraire, j'étais tellement admirative d'être devant des professeurs qui ont fait une carrière pour enseigner une langue étrangère qui n'est pas la leur. Moi, je ne me vois pas enseigner le coréen, par exemple. Et je pense que ça a été mal vécu par certains profs et du coup, ça s'est ressenti sur mes notes. Ce n'est pas des notes que je méritais. J'ai clairement été sous-notée dans beaucoup de mes devoirs, beaucoup de mes examens. Ce qui fait que les Coréens, en général, ils finissent leur bachelor avec une moyenne de A. Moi, j'ai terminé avec une moyenne de C. donc clairement en bas de la liste. Mais bon, j'ai quand même eu mon bachelor, donc je m'en fous.
Voilà, oui, tu as eu le bachelor.
Oui, je l'ai eu en Corée. C'est difficile de ne pas l'avoir, hein. Il faudrait avoir F à toutes ces matières pour ne pas l'avoir. Mais
D'accord.
ici, si tu as ton bachelor avec un C, c'est nul, quoi. C'est clairement pas
Oui.
acceptable.
Oui,
Eh ben, moi,
d'accord.
c'est ce que j'ai eu, voilà. Parce que j'ai quand même fait des comparaisons, hein, surtout sur ce prof-là qui avait l'air de ne pas m'apprécier du tout. Il y avait un travail de traduction et tout ça, et il y a même eu deux traductions. J'ai toujours fait mes devoirs par moi-même, j'ai jamais demandé la moindre aide à mes amis coréens ni à mon mari. J'ai fait mes devoirs avec mes capacités parce que je voulais avoir les notes que je méritais et j'ai jamais eu les notes que je méritais finalement. J'étais encore moins bien notée. J'ai fait un test, je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout. J'ai fait ce devoir de traduction, j'ai traduit par moi-même et j'ai demandé à une amie coréenne de me le traduire, de me le corriger. Donc elle me l'a corrigé, elle était parfaitement francophone elle aussi. J'ai rendu ce devoir, c'était noté sur 20, il m'a mis 10 sur 20.
Ah oui.
Alors que c'était une traduction parfaite, quoi. Finalement, faite par une traductrice, enfin c'était ma traduction corrigée par une traductrice. Il y a eu une deuxième traduction encore. Je l'ai faite faire carrément par quelqu'un d'autre. Et pareil, 10 sur 20. Du coup, je me suis dit, la première fois, c'était peut-être vraiment pas de chance. Je vais essayer une deuxième fois, pareil. On m'a mis 10 sur 20, c'était de la traduction parfaite. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, quoi.
D'accord.
Je suis clairement saquée, quoi.
Donc, ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui est en cause, c'était les relations que tu pouvais avoir avec
Exactement. La
certains
qualité,
enseignants.
oui, la qualité est bonne. Moi, je trouve quand même que l'université Sungmyeon a de très bons professeurs, il y a de très bons programmes. C'est très varié, très intéressant. Mais il y a cette relation que j'ai eue. Et puis la notation aussi à la coréenne, qui je trouve que c'est franchement injuste pour les étudiants. C'est la notation relative où je ne sais plus quoi. En gros, il y a un certain pourcentage de A à donner, un certain pourcentage de B, de C, etc. Deux élèves qui ont exactement le même niveau, qui ont rendu deux excellents devoirs, mais il ne reste qu'un seul A à donner. Il n'y en aura qu'une des deux qui aura son A et l'autre, elle aura B alors qu'elle aura fait tout aussi bien. Et ça, c'est
Ok.
très injuste et ça m'a porté préjudice à moi aussi pour une matière en particulier. Bref, ça a été plein, plein de moments où je pensais me relever. Finalement, paf, on me redonne un coup pour que je tombe. Ça a été comme ça pendant 4 ans, quoi. 4 ans.
4 ans, ouais, d'accord. Et tu travaillais à côté ou comment ça se passait?
Bien sûr. J'avais KBS, j'avais mes cours de français.
Ah oui, là tu as
Et
déjà
puis,
KBS, hein, tu as déjà commencé chez
en
KBS à
2016,
l'époque.
ouais. En fait, j'ai commencé les cours à l'université en 2013. En 2013, 14, 15, en 2016, j'ai pris un an d'absence parce que j'étais enceinte de ma première fille. Et j'ai été diplômée en 2018. Mais en 2016, j'ai commencé à travailler à KBS. Et du coup, j'ai fait les études plus KBS, le travail. Et même après, quand j'ai repris les cours, toujours KBS en même temps que les études. Et à côté, j'avais aussi des cours de français que je donnais.
D'accord. Donc tu termines les études en quelle année?
2018.
2018, d'accord. Et depuis, donc ça a été KBS principalement, c'est ça?
Ouais, et puis je suis aussi relectrice de l'un des sites du gouvernement depuis 8 ans maintenant, qui s'appelle coréa.net. C'est un site pareil qui parle des news du gouvernement, de la société, de la culture, machin, tout ça. Mais l'article de base est en coréen et il y a différentes langues sur ce site, dont l'indonésien, l'espagnol, l'anglais, tout ça, et le français. Et moi, je suis sur la partie française depuis
Tu
8 ans.
traduis ou tu relis les
Non, je
traductions?
relis seulement. Il y a une traductrice coréenne qui est diplômée en traduction et interprétation de la langue française. Et moi, je vais relire ces traductions qui sont
D'accord.
mises en ligne sur ce site.
Et donc, le groupe Facebook, KBS, de la traduction, un peu d'enseignement de français aussi, tu en fais toujours?
J'ai arrêté en 2000. Je pense que j'ai arrêté en 2016, quand je suis tombée enceinte, parce que c'était devenu compliqué de me déplacer et tout ça. J'ai arrêté l'enseignement du français, enfin les tutorats de français en 2016, je crois.
D'accord. Toi, tu n'as jamais été employé finalement ni en France ni en Corée, hein, c'est ça? Ah si, en France,
Ah si, en
pardon,
France, oui.
en France avec la secrétaire médicale, mais pas en Corée. Jamais été employé en fait,
J'ai
salarié.
toujours fait du freelance, voilà. Si, j'ai eu des petits jobs. J'ai eu des jobs, mais même pour ces jobs, hein, je ne me rappelle même pas avoir signé un contrat. Hein. J'ai été 3 mois dans la team marketing d'un hôpital où on préparait des publicités pour auprès des étrangers pour de la comment on appelle ça? L'opération bypass là pour maigrir pour les personnes obèses qui voudraient maigrir avec l'opération de l'estomac, etc. Dans cet
Oui.
hôpital, c'était 3 mois. En fait, j'aurais dû travailler plus longtemps, mais en Corée, c'est radical, hein. La team a démissionné en même temps. Tous en même temps. Donc, il n'y avait plus de team à la fin. Donc, il n'y avait plus de travail pour moi. Donc, j'ai dû démissionner aussi, hein, vu qu'il n'y avait plus personne.
Et pourquoi ils ont démissionné?
Et ils n'étaient pas contents des conditions de travail. Donc, ils se sont tous mis d'accord. Ils ont dit, ce jour-là, on démissionne. OK. Ils ont été 10, je crois, 9 ou 10. Ils ont tous démissionné le même jour. Le
Donc il ne restait
31.
plus que toi, et puis tu as dit, bah,
Bah
j'y vais
ouais, j'ai
aussi,
dit
alors je ferme la porte.
du coup, ouais, j'ai pas le choix, du coup, il faut que je parte, quoi. Qu'est-ce que je viens faire dans un bureau vide? Je sais même pas ce que je dois faire. Si j'ai pas d'ordre, si on me dit pas ce que je dois faire, voilà, quoi. Du coup, ouais, je suis partie. Donc, ça, c'était dans un hôpital. Ensuite, j'ai travaillé. Donc, ça, c'est ça, j'avais été recommandée. Pareil, c'est pas moi qui ai cherché. Et ensuite, j'ai travaillé dans cette grosse entreprise de construction qui est GS Construction, donc GS Control en coréen, qui fabrique des centrales électriques, des centrales hydrauliques et tout ça dans les pays africains, même en Corée et tout ça. Là, c'est ma colocataire avec qui je vivais à Hewa qui m'a recommandé, c'était en 2013. Donc, j'ai eu une mission de 3 mois de traduction de français, anglais, français avec les pays africains avec lesquels il travaillait. Ensuite, non, ça, après ça a été mes cours de français. Et puis après, je suis entrée à KBS et la relecture du site que j'ai finalement presque toujours eu depuis que je suis en Corée, vu que ça fait 8 ans que je travaille pour eux. Mais même eux, hein, j'ai rien signé. Hein.
D'accord, ouais, non, tu signes pas de contrat. Et
Ah,
donc, tes impressions, que ce soit personnelles ou par les gens que tu connais, sur le temps de travail, les vacances, l'équilibre travail-vie perso, à quoi il faut s'attendre quand on arrive en Corée?
j'ai envie de dire que ça dépend beaucoup des entreprises. Dans une entreprise internationale, je pense que ce sera beaucoup plus relax qu'une entreprise coréenne. Pour mon travail à l'hôpital, c'était. J'ai l'impression que les employés étaient un petit peu maîtres de leur travail, maîtres d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas vraiment d'ordre, ils n'étaient pas si stressés que ça. Quand j'ai travaillé dans cette entreprise de construction pour la traduction, ça a beau être une très grosse entreprise, c'est un petit peu. C'est pas. Ça me semble que c'est encore pire, hein, c'est encore plus gros. Mais je veux dire, c'est quand même une grosse entreprise très connue. Les employés, la journée, les employés coréens, bah, ils dormaient sur leur bureau, ils jouaient sur leur téléphone, ils discutaient sur Kakao toute la journée. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé que toute cette image qu'on nous vend de cette Corée professionnelle qui travaille comme des oufs et il reste super tard le soir au travail, bah, en journée, dans les bureaux, ils se croisent, enfin, ils se tournent les pouces beaucoup quand même. Donc, je les voyais travailler quand même hein, de temps en temps parce qu'il y avait des petites missions et tout. Mais en fait, ça fait énormément d'employés pour une charge de travail qui ne demande pas autant de monde, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'employés qui s'ennuient dans les bureaux. Et moi, je l'ai vu hein, pendant ces 3 mois à traduire. Bah, je les ai beaucoup vus s'ennuyer. Et pourtant, qui restait après les heures de travail parce que le supérieur n'était pas encore parti.
Oui, bah, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est pour ça que je t'interroge parce que tu connais bien le pays. On entend beaucoup d'heures au bureau, parfois pour rien, et en contrepartie une faible productivité,
Ouais, bah,
peu de
je l'ai
vacances
vu
et
de
peu de
mes
vie
propres
perso.
yeux dans cette, ouais, dans ces entreprises, dans cet hôpital et puis dans cette entreprise de construction. J'ai vu des employés qui n'étaient pas. Moi, j'ai travaillé en France aussi. Moi, en France, j'arrêtais pas une minute. Ma pause, c'était pour faire un pipi de temps en temps et manger le midi. Mais sinon, entre-temps, j'arrêtais pas de travailler. Et arriver dans des entreprises coréennes, j'ai pas vécu ça du tout. Après, tout est relatif. Mon mari, il est photographe dans un studio et lui, pareil, en journée, il n'arrête pas. Il n'a pas le temps de souffler ou quoi. Donc, ça dépend vraiment du domaine. Ça
Ouais.
dépend vraiment du métier qu'on fait. Mais moi, mes deux expériences personnelles. Déception, quoi. Je me suis dit, c'est pas le pays de la productivité que j'ai devant les yeux, quoi.
Oui, il y a beaucoup d'heures et passées
C'est
qui sont pas
il y a
forcément
beaucoup d'heures,
travaillées.
Voilà, exactement. Ce sont beaucoup d'heures, mais ce ne sont pas des heures effectives travaillées. Ce sont des heures de présence.
Des heures de présence, voilà. D'accord.
Ouais.
Pour toi, la Corée aujourd'hui, pour les professionnels étrangers, c'est un pays d'opportunité ou au contraire, c'est un pays à éviter en ce moment?
J'ai envie de dire que le corona a tout foutu en l'air, en fait. Parce
Oui.
qu'avant, c'était vraiment. D'autant plus si on parle coréen, si on parle coréen couramment, on avait toutes nos chances. C'était vraiment un pays où on pouvait espérer beaucoup de choses, en fait, professionnellement. Sans parler coréen, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, hein, je pense que c'est pareil dans tous les pays. Si on ne parle pas la langue locale, ça nous ferme des portes. Parler la langue locale, ça nous ouvre beaucoup de portes. Mais avec la crise sanitaire en cours, ça a vraiment tout a foutu le camp, en fait. Ça, même les Coréens eux-mêmes, hein, ils ont rencontré ils rencontrent toujours des situations très compliquées à cause de ça. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout la bonne période pour un étranger qui voudrait trouver du travail ici, quoi. Parce que le travail, s'il y en a, il sera d'abord donné à un Coréen et non à un étranger.
D'accord, mais principalement à cause de la crise du coronavirus, selon toi. Donc ça pourrait
Ouais.
revenir, si la crise se stabilise un peu, ça pourrait
Voilà, j'ai en
revenir
fait,
une paire d'opportunités.
j'espère, mais je suis pas sûre. Je pense que ça va prendre du temps, en fait. Parce qu'il va falloir d'abord replacer tous ces Coréens qui ont perdu leur travail. Et ensuite viendront les opportunités pour ces étrangers aussi qui sont à la recherche d'un travail, d'une situation stable en Corée. Mais la crise, elle a vraiment foutu un coup de massue sur toutes les opportunités qui s'étaient ouvertes aux étrangers depuis quelque temps, parce que la Corée n'a pas accepté les étrangers si facilement pendant longtemps. Elle a finalement ouvert ses portes. Ça a été comme un Eldorado du travail pour des étrangers, pour beaucoup d'entre eux. Et là, ça a tout foutu en l'air finalement. Et en plus, le durcissement des conditions pour obtenir des visas, mais ça devient de plus en plus compliqué. Des personnes qui ont déjà leur visa, qui doivent juste le renouveler chaque année, même le renouvellement devient maintenant incertain. Il y a vraiment quelque chose qui se joue en ce moment. Je ne comprends pas trop cette évolution d'une Corée qui se veut globale, qui se veut ouverte sur le monde. Et qui finalement commence à peut-être se dire, ah, on a peut-être été trop facile avec les étrangers, il va falloir remettre des barrières. Et ce sont des barrières pas forcément surmontables pour les étrangers qui espèrent une carrière en Corée du Sud et qui ont un savoir-faire à donner en plus, qui ont un savoir-faire à partager. Mais la Corée n'a plus vraiment envie de donner cette opportunité. J'ai l'impression, surtout depuis un an ou deux, là, où les conditions d'obtention d'un visa, mais ça devient compliqué au possible, quoi.
Oui, c'est d'autant plus bizarre que ce n'est pas un pays d'immigration, ce n'est pas un pays qui a jamais, enfin de ce que je peux en voir, mais en tout cas, et par rapport à la France et à l'Europe, ce n'est pas un pays qui a jamais ouvert les vannes, comme ont pu le faire par exemple l'Australie ou d'autres pays à certains moments. Enfin, ouvrir les vannes peut-être pas, mais en tout cas, avoir une immigration réelle de la part d'Européens, etc. Même quand on regarde les chiffres dont on parlait tout à l'heure, 3 000 Français en Corée. Je crois qu'il y en avait au moins 10 000 au Japon, au moins 2 000 à Taïwan, qui est quand même beaucoup plus petit. Donc, ça reste quand même des petits chiffres. C'est pour moi, mais tu vas me dire ce que tu en penses, ça reste quand même un des pays qui a le moins de population immigrée et donc où il y a encore énormément à faire.
Oui, c'est un pays qui fait une immigration sélective. Elle veut une immigration d'élite. Et je pense qu'elle s'en est jamais cachée. Mais il faut savoir que la Corée a tout à gagner à accepter des travailleurs étrangers qui ne sont pas forcément une élite, entre guillemets. Parce que pour la Corée, c'est quoi l'élite? Ça va être les gros investisseurs. C'est surtout ça que la Corée vise. Elle
Ouais.
veut des étrangers très, très investisseurs qui apportent de gros portefeuilles. Mais il faut savoir que sa main-d'œuvre, elle est étrangère à la Corée. Et pourtant, cette main-d'œuvre n'est pas mieux traitée. On le voit dans les news en ce moment. Il y en a beaucoup qui meurent en hiver parce qu'ils sont logés dans des serres, dans des champs. C'est inadmissible. Ça va contre les droits de l'homme. C'est vraiment un manque de respect pour l'être humain. La Corée, elle ne veut prendre que ce qui peut l'arranger. Et donc, elle veut cette immigration d'élite, donc ces gros investisseurs qui ont beaucoup d'argent. Et elle veut ces petites mains qui ne coûtent rien et qui ne demandent pas grand-chose finalement. Entre les deux, il y a quoi? Il y a nous. finalement. Il y a nous entre les deux avec un savoir-faire venu d'ailleurs, d'autres contrées. Mais c'est un savoir-faire aussi qui peut être acquis par des Coréens eux-mêmes. Donc, ils sont assez réticents. Et comme ils le disent, quand il s'agit d'un visa travail, si on n'a pas un savoir-faire qu'un Coréen ne peut pas faire, on n'est pas utile. Il faut que moi, si je veux un visa travail, je vais dans une entreprise, j'arrive, l'entreprise va dire, ah, on vous veut, vous. Et on ne veut pas quelqu'un d'autre. On va aller au bureau de l'immigration. Le bureau de l'immigration va dire, mais est-ce qu'un Coréen peut faire ça? Si un Coréen peut le faire, pourquoi on donnerait ce visa à un étranger, autant embaucher un Coréen? Ils sont quand même très. Ils sont dans la protection, ils sont très dans le protectionnisme, comment on dit ça? Enfin bref, ils vont d'abord penser à leur peuple. Et moi, c'est normal, je vais pas les juger, on ne va pas forcer un pays à accepter des étrangers, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'un étranger va prendre un travail que ça va prendre le travail de 10 Coréens à côté. Ça reste un seul étranger. Mais ça va être encore un étranger qui reste en Corée dans une situation précaire, puisqu'un visa, il y a une date de fin. On peut voir son visa révoqué à n'importe quel moment. Donc, ce n'est pas une situation stable, c'est dangereux, on reste dans le stress permanent à partir du moment où on arrive à la date fatidique du renouvellement. La Corée, elle est encore plus en train de durcir ses conditions d'obtention qui n'étaient déjà pas faciles avant. Mais alors là, ça devient encore plus compliqué. Et même moi, j'ai un visa mariage, par exemple, un visa époux de Coréen. C'est extrêmement facile à renouveler. J'ai juste à montrer un papier. Enfin, je vais parler au passé parce que justement, ça a changé. J'avais juste à prouver avec un papier comme une sorte de livret de famille, donc le certificat de registre familial, pour montrer qu'on
Oui.
était toujours mariés. Maintenant, ils nous demandent quoi? Ils nous demandent un relevé d'impôt pour prouver nos revenus et tout. Je ne comprends pas l'utilité de cette demande puisque. Ils ont de toute façon accès à. En Corée, tout est centralisé. Tout est centralisé. À partir du moment où ils ont notre numéro d'identité, ils peuvent tout voir sur nous. Et en fait, là, ils nous demandent de rajouter des papiers. Je ne crois même pas que ce soit un papier disqualifiant pour le renouvellement. Mais enfin, bref, il faut prouver maintenant nos revenus. Alors, est-ce qu'ils sont en train de nous classer en étranger utile ou en étranger inutile? Est-ce que cette personne est utile à l'économie du pays, est-ce qu'elle produit de l'argent, est-ce qu'elle n'en produit pas, je ne sais pas. Mais bref, même pour le visa mariage, qui est très simple à renouveler, ils commencent à rajouter des papiers comme ça, à nous demander en plus. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire depuis un an ou deux. Pour les personnes qui ont un visa F2, qui est un visa à points, il y a des personnes qui ne vont pas avoir leur visa renouvelé parce qu'ils ont changé les règles. Alors que
D'accord.
jusqu'à maintenant, avec le nombre de points qu'ils avaient, c'était un renouvellement classique. Mais avec les nouvelles règles, il y a des personnes qui vont avoir leur visa révoqué parce que n'y a plus assez de points. Donc maintenant, pour avoir des points, il faut être encore plus riche. Il faut gagner deux fois le revenu moyen annuel net d'un Coréen, ce qui est rare pour un étranger. Un étranger, il n'est pas forcément dans le haut de l'échelle au niveau du salaire. Oui, il y a ça au niveau des diplômes aussi, il faut que ce soit encore plus poussé, etc. Donc, ils sont vraiment encore plus en train de marteler cette envie d'immigration d'élite. En fait, voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Ils veulent soit l'élite, soit la petite main, mais entre les deux, on essaie de compliquer les choses pour donner le moins de visas possible.
D'accord. Donc c'est dur de venir, mais c'est aussi dur d'y rester, surtout si on est sur des visas de
C'est peut-être
travail.
même encore plus dur d'y rester en fait. Y venir, c'est relativement facile, il suffit d'avoir un motif. En Corée, on peut rester hors Corona, on peut rester en tant que Français 90 jours sur le territoire sans visa. Et après, on peut faire sur place un visa pour étudier la langue coréenne, par exemple, ou même étudier à l'université. Mais quand on veut renouveler son visa, là, ça se complique.
Oui, quand je dis venir, c'est venir professionnellement, venir pour travailler. Ça peut être difficile. Et ensuite, il faut ensuite renouveler son visa. D'accord. Très bien. Toi qui es maman, l'éducation, la santé, les enfants, comment ça se passe en Corée?
Comment ça se passe en Corée? Ben, ça se passe bien. Moi, je trouve que le système au niveau des enfants, on ne va pas parler de l'éducation, ça c'est complètement autre chose, mais ce que fait l'État pour les parents qui veulent avoir des enfants est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est dans un pays en plein déclin. Il n'y a plus de naissances. On est à 0,83 enfants par femme, je crois, aux dernières nouvelles. Ce qui est le taux le plus bas de l'OCDE, c'est effrayant. Il y a plus de décès que de naissances là, depuis cette année ou depuis le trimestre dernier, je ne sais plus. Mais on est dans, la Corée est face à une situation catastrophique de baisse de la population. C'est extrêmement rare. Et elle essaye de tout faire pour donner au peuple l'envie de faire des enfants. Bon, en même temps, les faire travailler comme ça, leur donner peu de congés, c'est un peu compliqué. En plus
Oui.
d'avoir un système éducatif extrêmement cher, ce n'est pas ce qui donne le plus envie de faire des bébés.
C'est clair.
Eux, le gouvernement mise tout sur l'argent, sur les finances. Donc, ce qui se passe, c'est que en Corée, quand on tombe enceinte, je suis tombée de ma première fille enceinte en 2016. Le pays offre, l'État offre à la femme enceinte une carte créditée de, à l'époque en 2015, j'ai eu 2016, j'ai eu 500 000 won, donc ça doit être 350 euros à peu près,
D'accord.
pour prendre en charge les frais médicaux de suivi de grossesse. Moi, ça m'a suffi pour toute ma grossesse. Donc, c'était plutôt bien, hein. Ça a été de l'argent que je n'ai pas eu à dépenser vraiment de ma poche. Et là, pour ma deuxième grossesse, ils ont augmenté à 600 000. Donc, on est sur du 500 euros environ. Et en 2022, l'année prochaine, ils vont passer cet argent à 1 million de won pour
D'accord,
un
donc ils
enfant.
essayent d'incentiver les gens par l'argent pour avoir des
Voilà, en
enfants.
leur disant, écoutez, votre grossesse ne va rien vous coûter, l'État prend en charge, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça a pris en charge ma première grossesse. Là, sur ma deuxième grossesse, j'ai utilisé que la moitié de l'argent et je suis pratiquement à 7 mois de grossesse. Donc, autant dire que ça va aussi payer une partie de mon accouchement. Donc, c'est super. Mais je veux
Oui,
dire,
parce
quand
que
l'enfant est là.
j'allais dire, il y a l'accouchement quand même encore derrière, qui peut être
Oui,
toujours
voilà.
différent.
Mais quand l'enfant, après, il est là, il n'est pas gratuit. Il y a des choses à acheter encore.
Ah, ben
Après,
c'est
c'est
là
de
que
la
ça
logique.
commence, même, j'ai envie de dire, oui.
Voilà. Après, on ne va pas se plaindre. On a décidé d'avoir un enfant, c'est qu'on
Ouais.
s'estime apte financièrement à avoir cet enfant. Donc, l'argent qui nous vient du gouvernement, c'est un cadeau qu'on accepte les bras ouverts. Mais je veux dire, quand on a un enfant, ce n'est pas juste une grossesse et après, pouf, il n'y a plus rien. Après, il faut éduquer cet enfant. Mais là, la Corée, elle mise tout sur la petite enfance et pas après. Et c'est ça le problème, selon moi. C'est-à-dire que pour la
Ça se
petite
gâte.
enfance, tout est pris en charge. Oui.
D'accord.
Ma fille va à la crèche tous les jours. Elle fait la journée à la crèche. C'est entièrement pris en charge par l'État. Je ne paye rien. Alors, on a le choix. Soit on décide de garder l'enfant à la maison et on touche, je crois, 120 000 won ou 200 000 won, ce qui fait à peu près 150 euros d'allocation familiale par mois. Soit on décide de l'envoyer à la crèche, auquel cas on ne reçoit pas les allocations familiales. Mais l'État prend en charge la crèche, sachant que la crèche est beaucoup plus chère que l'allocation qu'on reçoit. Hein. Moi, la crèche de ma fille, on est à autour de 400 000 won. Les lycées aussi, avant, étaient payants. Pour aller au lycée, il fallait payer avant. Mais depuis quelques années, le lycée est maintenant gratuit.
D'accord, ok.
Alors qu'il n'était pas avant.
Il n'était pas avant, ok.
Non.
Si je reviens sur l'expérience professionnelle, je crois que tu m'as dit que tu allais quitter KBS.
Oui, je vais quitter fin avril, là.
D'accord, enfin, je peux te poser la question. Qu'est-ce qui te motive à quitter? Quels sont tes projets?
Bah, je quitte parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail, même si c'est freelance, même si c'est pigiste, c'est que c'est qu'une émission par semaine, c'est très très prenant pour quelqu'un qui a une famille, en fait.
Ouais.
Et vu que je n'avais pas la possibilité, entre guillemets, de prendre des vacances, ça a foutu un gros coup sur ma famille quand même, de ne pas pouvoir passer ce temps ensemble. Et même quand je vais en France, je dois m'enfermer pour écrire mes scripts et c'est ma mère ou mon mari qui doivent garder ma fille, s'amuser avec elle pendant que moi je suis en train de travailler. J'aimerais bien profiter quand je vais voir ma famille, mais je ne pouvais pas. Donc j'ai décidé d'arrêter, surtout avec ce deuxième bébé qui arrive, j'aurai encore moins de temps. Donc je préfère préserver ma santé mentale et physique et ma famille, même si ça me plaisait beaucoup, hein. Mais il faut faire des
Oui,
choix.
mais ça prend trop de
Je
temps
pense.
et tu préfères trouver des
Oui.
activités qui seront moins chronophages.
Voilà. Et du coup, je pense que c'est un travail qui s'adresse très bien à quelqu'un qui n'a pas encore sa famille, en fait.
Oui, quelqu'un qui n'a pas d'enfant.
voilà, qui peut avoir ce temps pour
Ouais.
écrire ses scripts, pour vraiment s'imprégner dans son travail et tout. Mais là, avec la famille et tout, c'était un peu compliqué. Du coup, ouais, j'ai pris cette décision. Et voilà, quoi, c'est pour le mieux pour moi.
Oui,
C'est
bah
décidé.
ça se comprend tout à fait, effectivement, surtout avec la
Voilà.
naissance d'un deuxième enfant, effectivement.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et ce deuxième enfant ira à la crèche aussi, hein, de toute façon.
Oui,
Donc,
mais on sait que ça prend du temps.
voilà, mais à côté, j'ai quand même d'autres activités freelance. Je ne fais pas que KBS de mes journées. Donc,
Oui.
je vais quand même continuer à avoir beaucoup de travail à côté, même si je n'ai plus KBS. Pour
Oui,
moi,
d'accord.
tout ce que je fais en freelance, c'est quasiment du temps plein, hein, donc, la crèche prise en charge par l'État m'est indispensable. Merci État coréen pour ça. C'est un très beau cadeau que tu nous fais.
D'accord. Donc oui, 10 ans en Corée, tu es parti relativement jeune hein, d'ailleurs, installé.
Là là, début de vingtaine et maintenant ça y est, je suis début de trentaine. Ah non, je suis moitié de trentaine. Quelle horreur.
Donc une grosse partie de ta vie finalement en Corée. Alors justement, ma prochaine question, qu'est-ce qui te fait rester ici?
Mais qu'est-ce qui pourrait bien me faire rester dans ce pays?
Oui.
Bah, plein de choses. Déjà, ma famille, on est installés ici. Qu'est-ce qui pourrait me faire rester aussi? Je ne sais pas, la Corée, c'est le pays du pali-pali, tout va vite, tout est efficace, tout est, je sais pas, moi, c'est la rapidité, tout est simple ici. À partir du moment où on parle coréen, tout est simple, tout est facilité. Si on ne parle pas coréen, par contre, c'est complètement l'inverse, hein. On se sent désespéré, on se sent perdu, pas écouté, on n'y arrive pas. Mais à partir du moment où on parle coréen, la vie est tellement plus simple, tout est facile, tout est facilité, tout est centralisé aussi. Donc il n'y a pas à courir partout finalement. On va à un endroit et puis on peut tout faire. On peut aussi tout faire depuis son téléphone, ce qui est très pratique, les smartphones avec Internet et tout. La Corée mise tout sur les applications, tout sur les trucs en ligne. C'est absolument génial. Donc moi, j'adore la Corée pour ça. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le
Donc,
loyer pas cher?
la vie est simple, le loyer est pas cher. La vie est chère, non, en général.
Moi, je trouve qu'au niveau de la nourriture, c'est de plus en plus cher. Moi, je vois la
Ouais.
différence. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, j'allais faire mes courses au supermarché. Je ressortais avec mon caddie. Oh là là, c'est tellement pas cher par rapport à la France. Quand je rentrais en vacances en France, j'allais au Auchan ou à Leclerc et je voyais les prix. Oh là là, qu'est-ce que c'est cher! 10 ans plus tard, c'est complètement l'inverse. Quand je vais en Corée avec mon caddie, je pleure avec la note finale. Et quand je vais en France et que je vois les prix, je fais, oh là là, mais c'est tellement pas cher! Oh, regarde le prix de la viande et les légumes, alors qu'ici, ça coûte un bras. En 10 ans, les prix ont augmenté, mais incroyablement fort et vite.
Et pourquoi, à ton avis?
Oh, alors là, j'aimerais bien le savoir. Parce que, oui, le salaire horaire augmente tous les ans, mais je veux dire, c'est pas pour ça que le salaire est énormément plus élevé qu'à l'époque. Ouais, je ne sais pas trop. En tout cas, oui, pour se nourrir, ça coûte vraiment de plus en plus cher, hein.
Oui,
Plus
pour
cher.
moi qui ai plus d'éléments de comparaison, puisque je suis venu plus tard, ça me paraît relativement cher, effectivement. Je
Ouais.
m'y attendais
Même
pas.
l'essence, on voit le prix de l'essence aussi qui a augmenté. Il y a vraiment un coût de la vie qui a augmenté que j'ai vraiment remarqué en 10 ans parce que j'ai un point de comparaison. Moi, je comparais toujours avec la France. Et je
Oui, toi,
pense pas qu'en France, les
tu as
prix.
vu toute l'évolution.
Moi, je ne pense pas qu'en France, les prix aient baissé, hein, on serait au courant. Donc, c'est
Oui.
vraiment que les prix en Corée ont augmenté et puis c'est pas prêt de s'arrêter, hein.
C'est clair. Donc, un pays rapide où tout va vite, notamment l'administration, les livraisons aussi par Internet, etc.
Ouais, tout à proximité, tout est simple.
D'accord. À l'inverse, quel est le truc qui te pousserait à partir? Le truc que tu détestes?
L'éducation de mes enfants.
Eh oui.
Avec mon mari, on ne veut absolument pas mettre nos enfants dans le système scolaire coréen. Parce que mon mari, qui est coréen, lui, ne veut absolument pas faire vivre à ses enfants ce qu'il a vécu. Donc, pour moi non plus, hein, je n'ai pas eu que des bons retours. Et puis, avec tous les élèves que j'ai eus à qui j'enseignais le français, je les ai vus dans un état, mon Dieu. Donc, je me dis, on va leur éviter ça. Donc, il faut que ce soit en école internationale. Mais ça coûte un bras, c'est hyper cher.
Oui.
Donc, si le budget suit, on peut rester. Sinon, il va falloir qu'on rentre en France et qu'on les mette dans l'école publique française qui est prise en charge, quoi.
C'est à partir de
Parce
quand,
que
à ton avis, que ça va devenir problématique?
quand ma fille devra commencer la CP.
Ah, si tôt que ça, dès le CP.
Ouais, parce que pour aller dans, par exemple, à l'école française, il faut quand même que l'enfant parle français couramment. Faut que l'enfant puisse écrire après le français, répondre en français. Moi, ma fille, pour l'instant, elle est dans un environnement coréen. Donc, elle comprend le français, mais elle va pas le parler ni l'écrire, encore moins. Donc, il faut que l'enfant soit préparé à suivre ses cours en français, etc. Donc, pour la maternelle, vu que c'est pris en charge, je reste pour l'instant dans la maternelle coréenne. Et puis, ça ne pose pas de problème, hein, il n'y a pas de stress ou quoi pour l'enfant. Mais à partir de l'école primaire, avec mon mari, on prévoit de la mettre à l'école française, si on n'est pas encore rentré en France à ce moment-là.
D'accord. Donc effectivement, il faut avoir le budget qui correspond.
Ouais. Surtout que nous, en plus, on aura deux enfants, donc il faudra scolariser les deux à un moment donné. Donc deux fois plus cher.
Oui, il y a pas de réduction. On en arrive à la question à 1 000 euros. Qu'est-ce que tu as appris en Corée que tu aurais aimé qu'on te dise avant?
Alors à
Sur
vivre
la
trop
Corée,
longtemps,
évidemment.
à vivre trop longtemps quelque part, on oublie un peu ce qu'on espérait ou alors ce qu'on imaginait, hein. Moi, je ne me souviens pas. Il y a 10 ans, c'est loin. Mais difficile de dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Par contre, je sais que si je n'arrive pas à penser à ce qu'on aurait pu me dire, ça veut sûrement, c'est même sûr, dire que j'ai réussi mon intégration, je pense. Et bah oui, puisque j'ai établi ma vie ici. Donc, pour moi, mon standard, finalement, c'est ce que je vis maintenant. Donc, je ne me rappelle pas vraiment ce qu'était mon standard avant.
Je ne sais pas, il n'y a pas un truc que tu as mis longtemps à comprendre, que ça peut être dans la vie pro, dans la vie perso, un truc que tu as mis longtemps à comprendre, tu t'es rendu compte que finalement tu avais tout faux,
C'est pas.
et tu te dis, si quelqu'un m'avait dit, ah, mais tu sais, en Corée, c'est que ça se passe comme ça m'aurait quand même bien facilité la vie.
Je pense que même si on me l'avait dit aujourd'hui encore, je le vivrais mal. C'est la politesse. On parle d'une Corée, des Coréens très polis. Mais en fait, c'est une politesse tellement différente. Je crois qu'on n'a pas la même définition de la politesse française et la politesse coréenne. En France, on va tenir la porte, on va dire bonjour si on croise quelqu'un dans le couloir de son immeuble. Si on monte dans l'ascenseur, on dit bonjour. Quand on descend, on dit au revoir. Quand on arrive dans une salle d'attente, on salue les gens. Quand on la quitte aussi. Et en Corée, ce n'est pas ça du tout. On s'ignore. Moi, tous les jours, je croise mes voisins, je leur dis bonjour. Mais si je ne leur dis pas bonjour, ils ne me regardent même pas. Et quand moi, mes voisins, je leur dis bonjour, et ils me répondent juste par ouais. Comme ça, ils ne me disent pas bonjour. 10 ans plus tard, je le vis encore mal. Je vis mal cette politesse tellement différente. J'en ai marre de me prendre des portes dans la figure aussi. Les gens ne tiennent pas la porte. Ça bouscule et ça ne s'excuse pas. Enfin bref, c'est une politesse tellement différente. Et 10 ans plus tard, je ne m'y fais toujours pas. Mais je pense que je vivrai. Mais je pense que, en fait, pour moi, j'ai été élevée. Les Français sont élevés comme ça. On va dire merci, on va dire excusez-nous. Même si ce n'est pas forcément de notre faute, on a le réflexe de dire ah, excusez-moi. Enfin, bref. Ici, ce n'est pas du tout le cas et je pense que c'est dans mon sang, parce que j'ai été éduquée comme ça, pour moi, c'est une normalité d'avoir cette politesse-là qui n'existe pas en Corée et je ne suis pas sûre qu'un jour je m'y ferai, mais j'apprends quand même à ma fille à se comporter avec la politesse française, entre guillemets, tout en gardant une politesse coréenne normale ici, basique, parce qu'elle est coréenne aussi, donc il faut qu'elle apprenne des deux. Donc elle sera deux fois plus polie, c'est pratique. Et mon mari a aussi vécu, du coup, a compris cette différence également. Et il se comporte plus maintenant comme un Français qu'un Coréen en public. Il va aller s'excuser, il va dire merci à tout bout de champ. Dès qu'on met un banchan, donc un plat d'accompagnement sur la table, normalement les Coréens vont dire merci une fois. Et une fois que les serveuses continuent de mettre des trucs sur la table, ils ne parlent plus. Alors qu'en France, un Français, dès qu'on pose quelque chose sur la table, on va dire merci, merci, merci à chaque plat posé sur la table parce que c'est normal pour nous. On a été éduqués comme ça. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, du moins, j'ai été éduquée comme ça. Mais je vois que mes amis aussi, c'est pareil. Dès qu'on reçoit quelque chose sur la table, une carafe d'eau ou quoi, on va dire merci. On va leur dire merci de nous l'avoir apporté. Alors que les Coréens, c'est comme un dû. On leur met la carafe d'eau, ben voilà, c'est fin de l'histoire. Il n'y a pas de remerciement. C'est quelque chose dont j'ai du mal à me faire, mais mon mari, du coup, a pris ce pli, ce qui fait que maintenant, il va dire comme ça, Neda, 36 fois au restaurant. Je pense que ça met un petit peu mal à l'aise les serveurs et les serveuses, du coup. Et pareil, maintenant, il tient les portes, plein de choses comme ça, quoi. Et il m'a souvent dit qu'il avait pas réalisé avant de me connaître que c'était comme ça, puisque lui, de toute façon, on lui a jamais dit qu'il fallait tenir la porte, on lui a jamais dit qu'il fallait remercier souvent ou des trucs comme ça, saluer les gens dans le couloir. Il savait pas finalement parce qu'il l'a jamais appris. Et c'est en étant à vivre avec moi, il m'a dit, mais finalement, en fait, c'est logique. C'est logique. Et même lui, il se sent bien à saluer, à remercier, tout ça. Ça lui fait du bien aussi de son côté.
Ok.
Donc, il continue comme ça.
Ouais, j'ai l'impression qu'ici, la politesse, c'est de ne pas empiéter sur la vie des autres, de pas se mêler des affaires de la vie perso des autres. Non, tu es d'accord avec ça ou pas?
Ouais, bah, on parle d'un peuple en communauté, toujours ensemble, mais en fait, c'est très, très individualiste. C'est chacun sa vie, chacun son espace. On s'occupe pas de l'autre. Et puis, mais s'il se passe quelque chose, il faut que ce soit un groupe. Il faut que ce soit tous ensemble et pas individuellement. Il ne faut pas être dans la rébellion tout seul. Il faut que ce soit en groupe. Mais sinon, tout ce qui est espace personnel, etc., je trouve que pour eux, ouais, c'est super important. C'est ma vie et c'est pas la tienne. On n'invite pas les gens à la maison non plus, c'est notre espace.
Mais voilà, ce côté un peu laissez-moi faire ce que je fais, je vous laisse faire ce que vous faites, et puis on vivra bien ensemble. C'est pas lié forcément comme chez nous à des petites attentions réciproques, c'est plus lié à une séparation de la vie privée de chacun.
Ouais, c'est ça, ouais.
D'accord.
À partir du moment où je suis pas à la maison, je suis un individu et c'est tout.
Ouais. Ok. Ben écoute, merci Amélie pour ce retour d'expérience. C'était très intéressant, très varié, beaucoup d'informations, beaucoup d'impressions personnelles. Pour terminer cet épisode, je te propose, si tu as des projets, des annonces, des choses à dire, et de le faire maintenant.
J'ai pas de projet personnel particulier. J'aimerais bien m'occuper encore mieux du groupe Facebook dont on parlait tout à l'heure, les francophones en Corée, pour qu'ils deviennent une vraie référence des francophones installés ou qui souhaitent s'installer en Corée. J'aimerais vraiment assurer la véracité, on va dire, et l'effectivité des informations partagées. C'est pour ça que je ne partage rien de personnel sur le groupe. Je ne partage que des liens officiels, entre guillemets, pour aider au partage de l'information. J'aime à dire aussi que c'est une véritable encyclopédie. C'est vraiment un mot que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'adapte vraiment à ce groupe parce que ce sont les membres qui rendent ce groupe une encyclopédie finalement. Ça regorge d'informations, c'est plein d'expériences différentes. Donc j'ai envie que ça continue un peu dans ce sens-là quand même. Mais je tiens à dire que le groupe, il y a forcément des moments où les membres sont pas contents parce qu'il y a toujours des trolls, des personnes un peu aigries qui vont laisser un
Ouais.
message un petit peu vexant. Mais malheureusement, on peut rien faire parce que moi, je pourrais les virer, ces personnes, mais il y en aura toujours. Donc, c'est pas des trolls qui sont trolls H24, c'est vraiment des personnes qui sont comme ça quand elles voient des questions récurrentes dont elles ne veulent plus répondre ou auxquelles elles ne veulent plus répondre et qui les énervent. Mais je veux dire, c'est ce qui fait aussi, c'est comme la place publique. Hein. Un groupe sur Facebook, c'est comme une place publique. On rencontre toutes sortes de gens. Il y a des gens qui s'entendent bien avec tout le monde. Il y en a d'autres qui sont un peu plus agressifs. Il y en a d'autres qui sont un peu dans le silence qu'on ne voit jamais. Et il y a ceux qui sont toujours là pour aider et qui se fichent de répondre 36 fois la même chose. D'ailleurs, je les admire. Ils ont beaucoup de patience à répéter 36 fois la même information à 36 personnes différentes. Mais oui, on a pas le choix. Il faut vivre tous ensemble. Hein. Après, c'est le devoir de chacun quand même de se comporter comme il faut et surtout en accord avec les règles du groupe. Et le maître mot, pour moi, ça reste l'entraide, mais aussi le respect de l'autre et c'est ce qui devrait être le plus important. Tout le monde a sa place sur le groupe. Les gens qui ont un projet de venir en Corée, ils auront toutes les informations qu'il faut sur le groupe. Il suffit de faire une petite recherche. Et s'il n'y a pas la réponse, il pose la question et on lui répondra. Mais je pense que tout le monde a sa place sur le groupe et c'est pas pour autant que ça doit en faire un groupe qui part dans tous les sens. Je pense que les gens peuvent se mesurer eux-mêmes. Ils peuvent contrôler leur réaction, mais certains n'ont pas forcément envie de contrôler leur réaction et ils sont un petit peu à chaud, ils ont le sang chaud et ils répondent un petit peu trop vite.
Oui, oui,
Mais
oui.
on leur en veut pas.
Non, et puis je pense que honnêtement, tu fais un très bon travail de modération hein, pour fréquenter d'autres groupes Facebook. Je trouve que celui-là est très bien modéré, d'autant plus considérant que tu es quasiment la seule modératrice sur un groupe de 19 000 personnes. Je pense qu'il y a un excellent travail. Comme tu dis, il y a énormément d'informations.
Moi, j'ai dans l'idée qu'être administrateur, ce n'est pas être un dictateur, en fait. Moi, je
Oui.
suis pour la liberté d'expression.
Oui.
Je suis très tolérante. Je suis aussi très diplomate. J'essaie toujours d'être, même si je dois dire ou annoncer quelque chose qui ne fera pas plaisir, j'ai envie d'être quand même gentille dans mes mots parce que foncièrement, je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas envie d'énerver encore plus les gens. Au contraire, j'ai envie de calmer les choses. Administrer un groupe, ce n'est pas tout ou rien, en fait. Il faut trouver un juste milieu. Et moi, je pense l'avoir trouvé. Après, il faut que ça continue dans ce sens-là. Et je ne peux pas continuer dans ce sens-là si les membres ne m'aident pas aussi à côté. Donc, comment ils m'aident? Ils m'aident en signalant, ils m'aident en répondant eux-mêmes à des questions peut-être parfois récurrentes, mais avec gentillesse. Ou alors juste en guidant les questions récurrentes en disant bah, peut-être que si tu avais cherché avec la barre recherche, tu aurais eu ta réponse. Ou il y a des personnes qui vont directement chercher la réponse pour la donner. Enfin, c'est un travail collectif. Moi, je suis là parce que j'essaie de tenir les rênes, mais le carrosse, il est mené par tous les membres, finalement.
D'accord. Comment est-ce qu'on peut te joindre via Facebook?
Oui, via Facebook, par message privé, il n'y a pas de problème, je suis là.
D'accord. Merci encore une fois, Amélie.
Non, il n'y a pas de problème, merci, hein.
Et puis, à très bientôt, alors.
À bientôt et puis ben, bonne continuation.
'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!